toca a ti, toca a ti.
Bonsoir, bienvenue à la Tribune de la Presse que vous suivez tous les vendredis. Nous abordons ce soir trois thèmes qui auront marqué l'actualité cette semaine. En premier, les affrontements d'avant-hier et hier au Bas-Congo qui ont fait près d'une centaine de morts d'après de sources indépendantes. Nous parlerons aussi de la reprise de combats à Fataki en Ituri et à Minembwe au sud Kivu. Et enfin, le retard dans la sortie du gouvernement. Tribune de la Presse reçoit encore une fois les confrères Willy Kalenga, directeur des informations à la chaîne de télévision Antenna émettant à Kinshasa, Vonvon Kasongo, rédacteur en chef de radio-télé Kinmalebo, Henri Gérard Ekebe, qui est en ligne de Mbandaka, il est rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka, et dans ce studio, Clément Nzao, journaliste indépendant des confrères, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir.
Ouvrons notre tribune de la presse par l'actualité de ces deux jours, c'est bien la situation au Bas-Congo. Le sujet est encore à la une de tous les journaux parus ce matin à Kinshasa. Un calme précaire règne dans cette province. Après les affrontements de ces deux jours entre les forces de l'ordre et les adeptes du mouvement politico-religieux Bundu dia Congo, le bilan livré par des sources indépendantes fait état de près de 100 morts. Je vous propose, chers confrères, qu'on suive d'abord le point de la situation jusque ce midi avec notre confrère de Radio Kapi, Nazaire Koko.
Dans certaines villes, la vie a repris timidement. C'est le cas à Moanda où, selon des sources indépendantes, l'école n'a pas repris. Des magasins sont ouverts, mais les marchés ne connaissent pas leur affluence habituelle. L'armée reste déployée dans certains points stratégiques. Le bilan s'est alourdi avec la découverte de deux corps, affirment des sources indépendantes. Les morts ont été enterrés par des proches. À Boma, les corps sont encore à la morgue. Reprise timide des activités, mais les policiers sont bien visibles dans la rue. À Matadi, tout est revenu à la normale. Les activités commerciales, l'école, les agents de la fonction publique, les marchés et magasins sont ouverts. Situation similaire à Kimpese, Luozi, Mbanzangungu et à Kisantu. Dans ces villes, là où ils ont été vus, les adeptes de Bundu dia Congo sont à leur siège. À Tchela, les policiers sont encore visibles dans les rues. Selon les sources, un groupe de policiers a fait un mouvement à Patou, à plus ou moins 70 km de Tchela, où les adeptes de Bundu dia Congo auraient confisqué les armes des policiers. Contacté sur cette situation, le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou, a déclaré que tous les coupables doivent être sanctionnés. Mbadou, Situ, a par ailleurs lancé un appel au calme et à la paix sur l'ensemble de la province.
Voilà, premier tour de table, Willy Kalenga, vous êtes directeur des informations de la chaîne de télévision Antenna. Vous avez sans doute couvert ces affrontements du Bas-Congo. Comment vous les expliquez ?
Je pense que c'est une situation qui vient d'exploser au grand jour, mais depuis des longues années, les différents gouvernements n'ont pas su avoir la grille de lecture pour déterminer l'étendue des convictions religieuses et politico-religieuses des adeptes de Mbundu dia Congo. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ceci est arrivé, mais nous n'avons pas encore vu un débat au niveau le plus élevé de l'État pour pouvoir faire le contour de la situation. Quelles sont les récurrences? Quelles sont les convictions des uns et des autres? Pourquoi ce mouvement est toujours a toujours des problèmes avec les forces de l'ordre? Pourquoi? Et aujourd'hui, la situation s'est encore aggravée parce que le chef spirituel de ce mouvement, Nemwanda Nsemi, lui-même était candidat, donc une forme de volonté d'entrer dans l'institut de l'État,
candidat à vice-gouverneur.
Évidemment, débouté par les élections parce qu'il n'a pas gagné, il a commencé donc à réclamer depuis une semaine, à réclamer qu'il y ait un second tour. Jusque-là, la commission électorale indépendante ne s'est pas encore prononcée. Bon, je pense qu'il a, été indiqué que ceux qui ont des réclamations aillent au cours des tribunaux. Bon, est-ce que pour pouvoir renforcer la pression sur l'appareil judiciaire, ils ont demandé de faire une marche ou de faire une ville morte, ça nous le savons pas encore, mais que la situation soit déclenchée jusqu'à devenir ce mort que nous regrettons aujourd'hui, je crois qu'il y a une très forte culpabilité dans les chefs des uns et des autres. parce que à la lire ouvrons les choses et nous ne savons pas encore qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je suis d'accord avec la réunion qui a eu le matin entre quelques élus du Bas-Congo,
oui,
qui réclament qu'il y ait une enquête parlementaire pour déterminer les véritables responsabilités. Donc nous avons, nous, au niveau d'Antenne A, essayé de couvrir les événements de deux, dans les deux sens. Nous avons eu notre correspondant qui a à peu près retracé les mêmes schémas que votre correspondant dans les Bas-Congo, mais nous avons eu aussi moins d'Ansemi au téléphone hier, et ce matin on n'a pas pu le voir, pour qu'il nous dise exactement quelle est la responsabilité de ce mouvement dans ce déclenchement des violences. Alors, ce que je disais, effectivement, que il y a beaucoup plus de... La grille de lecture n'est pas la même, et l'on n'approche pas ce mouvement avec beaucoup d'objectivité, pour qu'on sache exactement si c'est un mouvement politico-militaire ou c'est un mouvement politico-religieux, parce que quand on parle de mort dans les deux sens, c'est que nous sommes en présence d'un affrontement armé.
Voilà. On va revenir à Willy Kalengai. Vonvon Kasongo, vous êtes rédacteur en chef de Radio-Télé Kimalebo. Je ne sais pas quelle est la lecture que vous avez fait de, que vous faites de ces affrontements.
Oui, je dirais que tout est, en fait, ce sont les conséquences de la tricherie qui a eu à caractériser les élections sénatoriales et celles de gouverneur. Pourquoi je le dis, tout est parti de frustration. Parce qu'on n'a pas compris,
encore
particulièrement dans le Bas-Congo, où les leaders du Burundi à Congo a été élu en tant que député national, vous le savez, et qu'il arrive au moment où il devait passer en tant que gouverneur, qu'il ne soit pas élu, alors que nous le savons que la plupart des députés provinciaux ont été justement élus pour permettre à ces leaders du Burundi à Congo de pouvoir être élus. Alors, tout est parti d'abord de cette frustration, et le comble, c'est quoi? La situation du Bas-Congo, aujourd'hui, on en parle, mais la politique consiste justement à prévenir. Et je crains même que ce qui est arrivé aujourd'hui dans le Bas-Congo arrive plus tard aussi dans les deux Kasaï, parce que j'ai l'impression que ces deux provinces aussi sont confrontées au même problème, où on aura à imposer des personnes qui, en principe, n'étaient pas disposées à pouvoir gouverner ces deux provinces. Mais alors, la question aussi que l'on doit se poser, quelles sont les causes justement de ce qui est arrivé dans le Bas-Congo? On nous dit que tout serait parti du fait que le mouvement Burundi à Congo aurait lancé des tracts le mercredi dernier, appelant la population à une ville morte, et qu'ainsi pour éviter une descente de policiers au siège de leur mouvement, ils avaient établi de barrages. Alors on ne comprend pas qu'est-ce qui a fait que le policier, alors que les autres étaient carrément dans leur siège, que le policier puisse engager une descente dans le siège de Burundi à Congo. Bon, en plus de ça, on a suivi le ministre de l'Intérieur comme quoi on aurait découvert des armes. J'ai l'impression que c'est le même scénario qui revient, le même scénario, allusion faite bien entendu à l'affaire Coutinho, où on s'attend déjà à quoi passer qu'il va arriver. Mais notre plus grande crainte, en fait, nous n'aimerions pas faire un polémiquer sur un bilan macabre, quel que soit le nombre de morts. Qu'il y ait un seul mort, c'est ça, mort de trop par rapport à ce que la population a, faut le dire, la population y a payé un lourd tribut pendant, depuis 1996 jusqu'à ce jour. Donc, il y a eu un seul mort. Donc, c'est fort regrettable.
Oui, on reviendra à vous, Vonvon. Nous avons en ligne de Mbandaka, Henri Kébé. Vous êtes rédacteur en chef de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Comment vous analysez ce qui s'est passé ou qui se passe encore au Bas-Congo?
Et nous avons appris avec compassion ce qui s'est passé au Bas-Congo. Mais je dois avouer que, c'est comme disait mon confrère depuis tout à l'heure, ce sont les frustrations justement à l'issue des élections de gouverneurs. Parce que ça, il faut se le dire, il y a eu beaucoup de choses au cours de ces élections, et même sénatoriales, ce qui fait que la population du Bas-Congo ne s'est pas retrouvée dans ses élus au niveau de la députation provinciale. Parce qu'on pensait certainement que la plupart des députés provinciaux ont été élus et que cela devait faire la volonté de la population. Mais là, c'est fort malheureusement, on a constaté que c'est tout le contraire. C'est qu'il y a quelque peu, j'ai chauffé l'esprit de la population. Et, mais les leaders les Congo, je ne sais pas, on dit que c'est un mouvement politico-religieux. Mais s'il n'a pas été élu, il a introduit une requête auprès du parquet. Il fallait peut-être attendre que le parquet puisse lui répondre. Mais il y a également une culture au niveau de la population, même dans les chefs de nos autorités. Souvent, quand quelqu'un voudrait organiser une marche, par exemple, on constate que le plus souvent, l'autorité n'est pas favorable à ce genre de réaction. Or, nous sommes en démocratie, il faut permettre que les gens s'expriment. S'ils veulent organiser une ville morte, je sais qu'on organise une ville morte. Il ne faut pas empêcher que cela soit organisé. Si on veut organiser une marche, c'est question d'accepter et d'encadrer. Mais souvent, on constate que l'autorité n'est pas favorable à ce genre de choses. On a même dit que, bon, tout à l'heure, là, ils ont érigé des barrières pour protéger leur site. Mais voilà qu'on dit, on a envoyé les policiers pour perquisitionner tout ça. Donc, c'est comme s'il y a une sorte de provocation et on est arrivé à ce genre de comportement. On déplore d'ailleurs beaucoup de morts de cette manière-là. Et pourtant, ce sont des choses qui pouvaient aller dans la paix sans qu'il y ait des morts comme cela est arrivé.
Merci Henri Kébé. Retour dans ce studio avec Clément Zao. Vous êtes journaliste indépendant et surtout vous revenez du Bas-Congo. Est-ce qu'on peut dire que ces affrontements étaient prévisibles après les résultats des élections?
Je pense que oui. Avant d'en arriver là, je voudrais regretter d'abord les morts, parce que c'est contraire à la culture du Congo, du né-Congo comme on dit. Je dénonce tous ces actes barbares et je suis très heureux que le procureur général de la République et l'auditeur général militaire soient déjà arrivés à Matadi au moment où nous parlons pour enquêter, peut-être qu'on pourrait élucider ce problème. Mais pour comprendre ce qui est arrivé, je pense que tout est parti du dernier jour de la campagne pour la course au gouvernorat. Lorsque Némona Nsemi, candidat vice-gouverneur pour le compte du mouvement de libération du Congo, avait pris la parole pour s'adresser aux députés provinciaux, il avait terminé par une menace. Je sais que vous avez été corrompus. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont touché de l'argent. Mais sachez que si vous ne parvenez pas à nous voter, il y aura des problèmes dans cette province. Donc, tous les décors étaient déjà plantés deux jours avant même le vote pour qu'on connaisse cette situation. Déjà le même jour, lorsque Némona Nsemi était en train de parler, ses adeptes, on les appelle les Malekessa, je pense, avaient pris d'assaut les sièges du Parlement provincial, de bout en bout, pour sécuriser les sites. Les policiers étaient là, ils avaient reçu ordre du gouverneur des provinces de laisser ces gens librement parce qu'ils sont allés pour suivre les discours de leur chef. Mais ce qui arrive, moi je dois regretter, tout à l'heure là, Vonvo a dit qu'il y a eu des frustrations, c'est vrai. Frustration, il y en a eu, mais est-ce dans le chef des autorités politiques de la province
ou des adeptes
ou dans le chef des adeptes ou en contre ça? Le vrai problème, c'est que Némona Nsemi n'est pas passé vice-gouverneur.
Alors qu'il est dernier de l'Union.
Le problème de Némona Nsemi, ce sont les députés provinciaux. Ce sont eux qui n'ont pas pu voter. Alors, contrairement à ce que Vovo a dit, on a été élu député par sa circonscription électorale, qui est le territoire ou la ville. Mais on a été élu sénateur, vice-gouverneur ou gouverneur par toute la province. C'est cela la circonscription, c'est différent. Vous avez été élu par la population de votre circonscription. Mais pour passer sénateur, il faut que ceux qui ont été élus dans toutes les circonscriptions de la province se réunissent et vous élisent.
Oui.
Donc là, les élections au second degré, c'est un scrutin très difficile parce qu'on a affaire à des grands électeurs,
des grands électeurs
auprès de qui il faut aller, des grands électeurs qu'il faut convaincre. Il faut donner un programme, il faut le convaincre pour passer. Ça, oui. C'est un problème.
C'est un problème, mais quand ça, même, Mwanda Nsemi faisait partie de l'Union pour la Nation, qui avait quand même la majorité des provinces.
Voilà, Mwanda Nsemi faisait partie de l'Union pour la Nation, qui avait, mis à part les chefs coutumiers qui avaient été cooptés, la majorité, il y en avait 14, si on ajoute 2. Mais il y a eu 2 qui ont changé de camp. Bon, je ne vais pas citer leur nom. Mais qu'est-ce qui est arrivé que ces deux-là changent de camp? Parce qu'en principe, sur 29, l'Union pour la Nation en avait 16. L'AMP allié, RCD consort, en avait 13. Mais il y en a eu 2, ici, au niveau de l'Union pour la Nation, qui ont changé de camp. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont changé de camp? Ça, c'est à l'Union pour la Nation de répondre à ces questions.
Okay.
Alors, fallait-il maintenant embraser la province, tout simplement parce qu'il y a eu des revendications? L'idéal aurait été d'attendre le recours formulé à la Cour d'appel. La Cour d'appel examine la situation, parce qu'il y a un recours pour un deuxième tour, et que la Cour d'appel dit le droit. Si jamais le verdict de la Cour d'appel n'est pas celui-là, il va interjeter appel pour venir à la Cour suprême. Donc je regrette tout simplement que nous avons voulu installer un état de droit, mais qu'on ne soit pas en mesure de le respecter.
Oui.
Je regrette également que des forces de l'ordre qui avaient été envoyées
pour assurer la sécurité de tout le monde, parce que les adeptes de Bouddha Congo sont des Congolais à part entière. Je regrette qu'il y ait eu des dérapages de ce côté-là aussi.
Oui, Clément, tu auras le temps de placer ce mot. Je reviens à la question. Est-ce que c'était prévisible, finalement, ce qui est arrivé en une seconde?
C'était vraiment prévisible parce que ça a été annoncé publiquement.
Voilà. Je reviens à Willy Kalengai parce que nous avons suivi le ministre de l'Intérieur promet une enquête. Les parlementaires ressortissants du Bas-Congo aussi tiennent à cette enquête. Willy Kalengai, est-ce que vous croyez en cette enquête?
Ce sera difficile de ne pas y croire. Hein. Je prête la bonne foi aux autorités parce qu'elles sont obligées, d'une manière ou d'une autre, de clarifier la situation. Nous sommes en train de construire un état de droit. Il nous faut bel et bien, par rapport à cela, mettre en place les mécanismes de clarification des sujets comme celui-là. C'est un sujet dramatique parce qu'il y a un mort d'homme. Il n'y a pas eu qu'un seul mort. On parle déjà de
plus d'une centaine.
Voilà, une trentaine de personnes. C'est des personnes qui se battaient peut-être pour leurs idées, pour ce qu'ils pensaient être l'idéal politique qu'ils poursuivaient. En même temps, on parle aussi des morts de policiers. Ça veut dire que les agents de l'ordre, en plein exercice de leurs fonctions, ont été attaqués, ont été tués. C'est dramatique. Il faut vraiment qu'il y ait une enquête, mais pas seulement une enquête, mais des sanctions. Dans une démocratie, quand il y a mort d'homme, il faut que quelqu'un, quelque part, réponde, non pas seulement de ceux qui ont attaqué les policiers, mais comment les policiers ont aussi tiré. Parce que nous savons que les règlements militaires ou les règlements de la police, faut dire que dans les manifestations anti-émeutes, on utilise en dernier recours l'arme à feu. Il y a d'autres moyens pour contenir les manifestants. Est-ce que les adeptes de Mounda Congo étaient armés? Et s'ils étaient armés, est-ce qu'ils ont ouvert le feu? Est-ce qu'il y a eu des sommations? Il faut que tout ceci soit mis dans un procès verbal pour qu'on sache qui est celui qui a vraiment commencé cette catastrophe. Quand on dit que c'était prévisible, bon, je n'ai pas dit que le Mbundia Congo ou le Nemanda Semi avait dit qu'il allait commencer à attaquer s'il n'est pas élu. Non, je pense que, et comme Vonvon l'a dit, effectivement, un autre élément majeur est entré dans la configuration politique, c'est l'élément de la contradiction entre le vote des grands électeurs et le vote
de l'aspiration même de la base.
Cette contradiction, qui relève de la liberté des hommes aussi, a fait qu'aujourd'hui, la carte est brouillée. Ce qui fait que ceux qui représentent la province ne sont peut-être pas ceux qui pensaient sortir. Mais c'est les jeux de politique, il faut que chacun se fasse violence pour respecter la volonté qui est exprimée et surtout recourir, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère Clément Zao, recourir à la justice qui a mis en place un mécanisme de recours quand on n'est pas content du résultat.
La justice, justement, c'est ce qu'on attend d'elle, cette enquête. Vovo Kasongo, rédacteur en chef de RTKM, vous y croyez aussi, je pense?
Moi, les enquêtes, je n'y crois pas trop. Il faudrait d'abord que je sois fixé sur les précédentes enquêtes, notamment celles relatives aux affrontements entre les hommes de Jean-Pierre Bemba et du chef de l'État. Donc, je ne crois pas trop sur les enquêtes.
Henri Ekebe, vous êtes à Mbandaka, rédacteur en chef de la RTNC. Vous avez suivi les propos de Willy Kalenga et Vonvon Kasongo. Qu'est-ce que vous pensez de l'enquête annoncée par le ministre de l'Intérieur?
Oui, le ministre l'a annoncé, j'espère que cette enquête sera menée et qu'on aboutira à des sanctions. Parce qu'en fait, nous connaissons que l'impunité a régné en maîtresse ici dans notre pays, mais que les enquêtes aboutissent quand même. On a beau dire, on a envoyé l'auditeur général est descendu, le procureur général, on va envoyer une enquête, les parlementaires de Bakongo voudraient également organiser une commission d'enquête, mais il faudrait que ça aboutisse quand même et que le coupable soit puni de là, parce que sinon, on constate qu'il y a un peu partout, c'est des morts d'hommes, tout ça. Et ceux qui sont les commanditaires ne sont pas inquiétés. Tout ça, ça ne va pas. Je crois qu'il faudrait que cette enquête au moins aboutisse.
Et Clément Zao, vous pensez que cette fois, les...
Pour ceux qui ont toutes les parties, je pense qu'il faudrait impliquer des personnalités neutres dans cette enquête. Pourquoi pas aller puiser dans la MONUC pour que, du moins, les résultats de l'enquête soient opposables à tout le monde. Parce que si on laisse le procureur général de la République, le leader général militaire, le parlementaire, les gens des Bouddha Congo doivent vous dire, voilà, tous ceux qui sont partis sont proches de telles familles. Alors, il faudra impliquer, je pense, les Nations Unies. Pour ça, et comme la MONUC est encore en place, la MONUC est à Matadi dans le Bas-Congo, je pense que si on impliquait la MONUC dans ce travail-là, les résultats de l'enquête pourraient être opposables à tous.
Merci beaucoup. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous suivez la Tribune de la Presse. Nous avons trois sujets ce soir. C'est d'abord la situation qui prévaut au Bas-Congo, où des sources indépendantes parlent d'une centaine de morts. Mais nous allons aussi aborder le sujet sur la reprise des combats à Fataki en Ituri et à Minembwe au sud Kivu. Et puis nous allons terminer par le retard dans la sortie du gouvernement. Nous avons dans ce studio Willy Kalenga, il est directeur des informations à la chaîne de télévision Antenna. Nous avons Vonvon Kasongo, rédacteur en chef de RTKM, et puis Clément Nzao, qui est journaliste indépendant. Et nous avons en ligne de Mbandaka, Henri Ekebe, il est rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka. Nous passons au deuxième sujet de ce soir, c'est la reprise des combats à Fataki en Ituri et à Minembwe dans le sud Kivu. La réforme de l'armée congolaise n'est pas effective et certains militaires n'ont jamais rejoint le brassage. Illustration de ce problème au sud Kivu et précisément à Minembwe. En début de semaine, des combats ont opposé des militaires loyalistes de la 112e brigade aux éléments fidèles au major Rukunda. Ce dernier, dissident des FARDC, s'oppose au brassage. Notre confrère Serge Maéché nous retrace les tentatives d'intégrer Michel Rukunda et son groupe au sein de l'armée congolaise.
Le major Michel Rukunda est en dissidence depuis septembre 2005. En effet, cet officier FARDC qui appartenait à la 109e brigade a déserté son unité suite à un différend avec sa hiérarchie. Le major Michel Rukunda, se retrouvant dans le secteur contrôlé par le général Patrick Masunzu, refusera d'obéir à ces derniers lorsque l'état-major de la 10e région militaire va lui demander de rejoindre la 112e brigade. Plusieurs fois, la commission vérité et réconciliation de Mgr Jean-Luc Couillet et la MONUC l'ont rencontré pour essayer de comprendre ses revendications. Chaque fois, ce dernier acceptait d'aller au brassage. Cependant, il réclamait à la veille de son départ 14 mois d'arriérés de soldes pour lui et la centaine d'hommes qu'il dirige. 14 mois qui correspondent à sa période de dissidence. En début décembre dernier, il avait dit à nouveau être prêt à réintégrer les FARDC sans condition. Un nouveau engagement tenu devant la MONUC et les commandants de la 10e région militaire. Mais comme on pouvait s'y attendre, il n'a jamais confirmé jusqu'à ces jours cet engagement. Pour l'état-major général de la 10e région militaire, on ne peut pas payer la solde à un soldat qui est réputé déserteur. Il faut noter en plus que la 112e brigade du général Patrick Masunzu, elle non plus, n'est pas encore brassée. La 10e région voulait y intégrer Rukunda et ses hommes avant de les envoyer tous au brassage, mais suite au refus du major Michel Rukunda, cette mesure est restée lettre morte. Serge Maéché, Dialogue entre Congolais.
Oui, Willy Kalenga, et comment vous analysez justement la reprise des combats à Minembwe au sud Kivu?
Mais c'est encore ce que moi j'appelle la face visible, l'iceberg. Nous sommes en présence d'un refus catégorique de faire le brassage, et ça c'est depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait que dans cette partie du pays, des hommes par centaines se révoltent de l'autorité militaire établie et se constituent en armée privée? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de ce major? On a parlé du général Masunzu. Il y a quelque temps, il était en bonne odeur de sainteté par rapport à Kinshasa. Mais aujourd'hui, on ne parle pas même de l'autre, le général Kunda Batware. Moi, je me dis qu'il y a
Il est en négociation.
Oui, il y a une donnée qu'il faut intégrer dans l'analyse. À quoi servent ces forces quand elles ne sont pas en guerre? Effectivement, ces forces sont privatisées. On ne le dit pas assez, ce sont des brigades, souvent c'est des hommes en armes qui servent à des motifs de protection des concessions minières. À l'intérieur de cette province, il y a beaucoup d'intérêts économiques. Et ces hommes, la plupart de ces financiers occultes, utilisent les hommes en armes pour protéger leur exploitation. C'est des armées presque privatisées. C'est comme ça que quand vous demandez à ces gens-là de quitter les lieux où ils travaillent, au compte des privés, pour aller se faire brasser, envoyer à Matadi, envoyer à Kisangani. Ils ne peuvent pas accepter parce qu'on leur enlève la main du gâteau. De cela, on ne parle pas suffisamment. On dit pourquoi ils refuseraient le brassage si le brassage leur permet d'avoir un numéro matricule et d'avoir leur solde. Parce que dans l'état actuel, ils bénéficient des avantages indûment gagnés par le fait d'un service privé. Qui sont les forces, quelles sont les forces économiques et financières dans le sud et le nord Kivu qui font que nos militaires à nous refusent le brassage? C'est parce que ces militaires sont instrumentalisés et que ces militaires sont payés, nourris, armés par des forces privées dont on ne parle pas suffisamment.
Instrumentalisées par... C'est qui exactement ces forces-là?
C'est justement ce qu'il faudra, découvrir. Parce que l'on a dit d'abord que non, voilà, il y avait des questions ethniques, ils ne veulent pas quitter la province pour protéger certains Congolais qui seraient menacés par le fait du délit de faciès. Ça, c'est un prétexte visible. Mais la réalité, c'est la réalité économique et financière. Vous savez que depuis quelques jours, on a repris encore la production du coltan. Sur le plan mondial, le coltan a augmenté encore des prix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hommes qui exploitent, n'étant pas protégés par les forces régulières, prennent ces hommes en armes. C'est des gens organisés. Si vous avez 100 hommes armés, ils font calmement défection. Et ils vont s'installer sur votre exploitation et ils vous aident à exploiter. Mais on ne dénonce pas ces pillages-là. Ce sont ces militaires qui sont instrumentalisés qu'il faut, dénoncer, il faut aller à la source. Parce que pour qu'un homme refuse d'être brassé et qu'il dise que je reste avec mes hommes pendant 10, 15, 14 mois, pendant 14 mois, ces hommes ont vécu de quoi? Qui les a payés? Qui les a financés? Comment ont-ils résisté au brassage? Comment l'armée régulière n'est pas parvenue à les forcer parce qu'en ardant l'armée, la discipline est de fer? Parce que ces hommes sont protégés par des groupes financiers et des groupes économiques.
Bonbon Kasongo, vous êtes rédacteur en chef de RTKM, pardon. Est-ce que vous croyez aussi, comme Willy Kalengai, que c'est pour des raisons d'intérêt économique que ces hommes tels que Rukunda et son groupe résistent au brassage?
Oui, j'embrasse le point de vue de Willy en ce sens. Nous avons déjà évoqué le camp d'Abattoiré, nous l'avions dit, que l'homme est en croisade pour défendre son ethnie. Mais qu'en est-il alors de Masunzu, des Rukunda et autres? Donc je me dis, derrière tout ça, il y a une affaire de sous. Mais au-delà de cette affaire d'argent, comme je viens de l'évoquer là, nous le savons, à Sand City, à l'issue de la signature de l'accord global et inclusif, les divers partenaires congolais, s'étaient assignés quelques objectifs. Entre autres, la restauration de l'État sur toute l'étendue du territoire, plutôt la formation d'une armée intégrée républicaine et la tenue des élections. De ces trois objectifs, vous remarquerez que les politiciens congolais ont focalisé toute leur attention plutôt sur la tenue des élections que sur les deux autres objectifs. Et les élections ont eu lieu, c'est vrai, bon, il y a des cas que nous pouvons décrier en ce qui concerne notamment le cas de Tricherie, mais ces élections ont quand même eu lieu. Mais ces élections n'ont pas apporté ce que nous attendions de ces élections, c'est-à-dire la sécurité, notamment de la population. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'armée républicaine, il n'y a pas d'armée intégrée. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous nous retrouvions face à des Laurent Kunda, que nous nous trouvons face à des Masunzu, à des Rukunda. Et comme vous le savez, l'armée, c'est l'ossature même d'un État. Et l'État congolais est en déliquescence parce que justement, il n'a pas d'armée. Et elle est obligée, vous remarquez que l'État congolais est obligé de négocier avec quelques hommes parce que elle ne sait pas faire face justement à ce genre de situation. Et croyez-moi, cette situation risque de perdurer d'autant plus qu'elle arrange certaines personnes. Et vous trouvez même des complicités au sein du gouvernement qui soutiennent justement c'est les Kunda, les Masunzu et compagnie.
Donc vous pensez qu'il faut parachever le processus d'intégration de l'armée, si je comprends?
Tout à fait. C'est ce qui est le plus important et le reste va suivre.
Henri Ekebe, rédacteur en chef de radio de la RTNC Mbandaka, vous êtes en ligne. Est-ce que vous partagez le point de vue de Willy Kalengai et Vonvon Kasongo qui parlent des intérêts économiques et du retard dans le parachèvement en fait de l'intégration de l'armée?
Bien sûr, je crois qu'il doit y avoir une main invisible derrière et tout ce qui se passe à l'est du pays. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que la communauté internationale était prête à aider le Congo à retrouver la paix. Et la communauté internationale a condamné le pillage des ressources de notre pays. Mais ce qui m'étonne, c'est que maintenant, la communauté internationale qui est présente avec nous constate qu'on continue à piller nos richesses sous couvert de ces dissidences là-bas. On a Kunda Batoaré, le Masunzu, le Rukunda. Mais on ne nous aide pas. Pourquoi? Parce qu'il est établi aujourd'hui que nos forces armées ne sont pas en mesure de mettre un terme à ce qui se passe à l'est du pays. Mais il faudrait quand même nous aider. Bon, la MONUC est là, il y a des militaires, pourquoi ne pas faire un certain effort pour qu'on arrive à mettre terme à cela? Donc je dis qu'il y a une aide derrière cela et je crois que c'est ce qui est regrettable.
Oui, mais quand vous parlez de « on continue à piller nos richesses », ces éléments, c'est quand même des éléments fardessés.
Oui, bien entendu, ces éléments, ils sont derrière, la communauté internationale elle doit être derrière, parce que quand on dit, par exemple, que le Kunda Batoaré, si on est, par exemple, en train d'exploiter les ressources minières à ce niveau-là, ça va où? Ça passe par les pays voisins, ça va ailleurs, donc ils en profitent de cette manière-là.
Oui, Clément Zaou, journaliste indépendant, vous avez sûrement à réagir justement ou des explications à donner sur Michel Rukunda et son groupe qui refusent le brassage au niveau de Minembwe.
Je pense que l'histoire a tendance à se répéter en RDC.
C'est-à-dire,
lorsque nous étions au dialogue intercongolais, chaque fois qu'il y avait un point de blocage, on apprenait qu'à l'est du pays, on a récupéré une ville ou une localité alors qu'il y avait cessation des hostilités. C'est dire quoi? Moi, j'arrive à comprendre que le parrain, ceux qui ont eu à soutenir nos amis qui avaient la gestion de l'est du pays, avaient plusieurs agendas. Ils se disent, on peut libérer les politiques partent. Si les politiques semblent ne plus être contrôlées par ses parrains, ils recourent à une autre solution, à d'autres pistes. Et je pense que ces amis ici, qui sont à l'Est, on connaîtra toujours ces problèmes lorsque la communauté internationale n'aura pas le courage d'aller dire aux pays voisins, vous avez assez profité des richesses de la République du côté du Congo, vous avez certainement eu à donner des armes, peut-être qu'ils n'ont pas eu à récupérer tout ce qu'ils devaient récupérer parce qu'on ne connaît pas ce qu'ils ont signé comme contrat. C'est ça le problème. On ne connaît pas ce qui a été signé entre eux et leurs protégés. Aujourd'hui, les protégés sont de plein fouet, de plein pied dans les institutions de la République et qu'on a tendance à réunifier les pays. Ils se disent, nous, on n'a pas encore trouvé notre compte. Certainement qu'ils ont encore intérêt à aller poser là-bas, mais il faut utiliser qui? Ils vont chercher à retirer quelqu'un, il y a eu condamnatoire, on utilise ces majors ici pour continuer. Et vous verrez, au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura certainement un problème qui va se poser, même au niveau congolais, au niveau de la République démocratique congolaise et des institutions. Vous apprendrez que tel autre a récupéré telle histoire, parce qu'ici, il y a eu telle revendication qui n'a pas trouvé solution. Donc aujourd'hui, je pense humblement que les majors ici, tout comme condamnatoire, sont des gens qui sont instrumentalisés. Ce n'est pas des gens, il y a des personnalités qui sont à Kinshasa qui connaissent ça. Ils connaissent bien ce qui se passe, mais ils n'ont plus la force ou les moyens politiques de dissuasion pour leur dire voilà. Parce qu'ils avaient tous le même maître et on trouvait d'autres chemins.
Oui, mais Clément, comment est-ce qu'on peut encore parler des pays voisins lorsqu'on a déjà 14 brigades intégrées sur les 18 prévues? Comment est-ce qu'on peut encore parler ou accuser des pays voisins?
14 brigades, est-ce que toutes ces brigades ont-elles les moyens pour sécuriser la République démocratique du Congo? C'est ça la question. Est-ce que toutes ces brigades, les éléments qui composent toutes ces brigades, ont tous réellement la volonté de voir au sein de l'armée? Il y a déjà, comme l'a dit Willy, qui était soigné aux petits oignons. Si en 2 semaines, tu pouvais facilement te tailler et te taper 10 000 dollars, et que maintenant tu dois attendre 1 mois pour avoir 100 dollars ou 200 dollars, mais le choix est clair. Celui qui est là, les voisins, il vous dit « Non, moi j'ai 10 000 dollars à te donner en 1 mois ou en 2 semaines. Viens, protège-moi cette concession en attendant que moi je puisse puiser. » Qu'est-ce qu'il va faire?
Voilà, donc nous notons avec Clément Zaou et Willy Kalinga, je crois qu'il a dit aussi que ces différents groupes qui résistent au brassage donc sont ou seraient instrumentalisés. Mais nous savons aussi que la reprise de ces combats a été, inquiète aussi le RCD, le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, qui dénonce justement ces affrontements meurtriers entre notamment le cas du Bas-Congo, entre les adeptes de Bundudia Congo et les forces de l'ordre dans cette province. Le parti d'Azarias Rouberois se dit aussi inquiet de la reprise des hostilités dans le sud Kivu entre les FARDC et les éléments dissidents. Le secrétaire général du RCD l'a déclaré au cours d'un point de presse hier jeudi à Kinshasa. Pour Hubert Kabasubabo, ce regain de violence est l'une des conséquences du retard pris dans la mise en place du gouvernement Gizenga. On écoute Hubert Kabasubabo au micro de René Capitan.
Ça fait plus de 6 mois ou de 5 mois que l'ancien gouvernement ne tient plus ses réunions. Il n'y a plus de gouvernement. Le nouveau gouvernement tarde à venir. Il y a comme un hiatus dans l'État. L'État opère comment? Les grandes décisions se prennent où? Toute cette violence nécessitait, par exemple, le Conseil des ministres devait se pencher sur cette question. Mais maintenant qu'il y a ces vides, qu'est-ce qui va se passer? Et donc nous pensons qu'il est urgent que le gouvernement soit mis en place, parce qu'on ne peut pas parler, démocratie simplement parce qu'il y a eu des élections. On parle de démocratie, élections, mais on doit remodeler l'État par rapport à la nécessité de la démocratie. Dans la démocratie, l'État, l'exercice du pouvoir, doit, comme priorité numéro un, prendre soin et protéger les citoyens. Si les citoyens ne sont pas protégés, même si vous avez des élections, vous n'avez pas encore de démocratie.
Voilà, ça c'était le secrétaire général du RCD. Est-ce que Clément Zaou, ou est-ce que vous pensez aussi que le retard dans la mise en place du gouvernement, qui est d'ailleurs le troisième sujet de la tribune de la presse, vous pensez qu'il y a un lien justement entre ce retard et la reprise des combats, notamment à Fataki, à Ituri et au sud Kivu?
Tout à fait, je pense que M. Kabasubobo a raison. Lorsque vous n'avez pas un gouvernement, lorsque ceux qui sont en place expédient les affaires courantes, ça fait 3 mois, 4 mois qu'ils ne partent plus dans leur bureau, pour certains. Donc ils ne suivent plus la situation du pays. Il n'y a que le ministre de l'Intérieur qu'on voit à l'œuvre, il est au four au moulin, à gauche, à droite. Je pense qu'il faudra, s'il y avait un gouvernement en place, c'est une question qui devait faire l'objet de discussions au sein du gouvernement, ou beaucoup plus de structures sécuritaires de la République démocratique du Congo pour trouver des solutions urgentes. Mais lorsqu'on ne sait pas à qui s'adresser, on fait quoi? On tâtonne et les autres en profitent. Je pense que ce petit temps de récréation, il n'y avait pas de gouvernement, ça profite aussi à ceux-là qui veulent bien puiser dans nos ressources minières de prendre ce qu'ils peuvent prendre parce que l'État n'est pas dirigé aujourd'hui.
Bon, Kasongo, rédacteur en chef de TKM, vous pensez aussi qu'il y a un lien entre la reprise des combats à Fataki et Sud Kivu, disons à Minembo Sud Kivu, avec le retard du gouvernement d'Izenga?
Oui, bon, la coïncidence, elle est quand même troublante que cela surgisse au moment où on attend la mise en place du gouvernement. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me préoccupe le plus, on dit que le 1 plus 4 est dissous, mais j'ai l'impression que l'esprit demeure. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous entendez le secrétaire général du RCD s'exprimer, vous avez l'impression qu'il vise quelqu'un, ou il vise une entité, ou il vise une composante politique. Et je ne dis pas seulement pour les RCD. Lorsqu'il arrive aussi qu'un autre membre d'une autre composante s'exprime, c'est qu'il vise un membre du RCD, qui soit un autre membre du RCD. C'est-à-dire quoi? Il y a eu les camps Kounda Batware. Je n'ai pas entendu les RCD s'exprimer sur les camps Kounda Batware, à moins que je me trompe. Et d'ailleurs, les RCD avaient appelé à ce qu'il y ait des négociations avec l'homme. Mais ça me tourne aujourd'hui la position que le RCD prend. Le RCD semble même très sévère à l'égard de Masoudzou et compagnie. Or, qu'on prenne Massoud, qu'on prenne Rukunda ou qu'on prenne Laurent Kunda, ce sont des mêmes crabes qu'on doit mettre dans le même panier.
Oui, Willy Kalingaï, vous êtes directeur des infos à la chaîne de télévision Antenna. Je ne sais pas comment vous analysez la réaction du secrétaire général du RCD avec ce qui se passe et le retard dans la mise en place du gouvernement d'Izenga.
Mais c'est vrai aussi que l'on peut trouver des rapports de causalité entre le retard dans la mise en place du gouvernement et la recrudescence de la violence, mais je crois que ça serait un peu trop forcé sur la note, même s'il y avait le gouvernement Kizenga, ce qui se passe à l'Est continuerait, parce que, comme l'avons dit, les origines de ces conflits, d'ailleurs un de nos confrères ce matin, titré en parlant des faits de brousse, en disant, voilà quelques petits faits de brousse par-ci par dans le pays, et ça va bientôt faire l'incendie. Il faut reconnaître, et ça c'est toute l'opinion publique congolaise même qui doit se rendre à l'évidence, que la démocratisation de notre nation, que le Congo devienne un état de droit, c'est un principe qui ne plaît pas à l'ensemble des forces qui bénéficiaient du chaos qui était dans le pays. Et les forces objectives qui voient dans la démocratie au pays, au Congo ici, qui estiment que si le Congo se relève, si c'est un état de droit, eh bien notre règne va cesser. Et ces hommes-là, ces forces-là, elles ne sont pas seulement au Congo, elles sont aussi en dehors du Congo. Alors, personne ne pouvait parier à 5 ans que nous arriverons aux élections. Personne ne pouvait parier qu'aujourd'hui nous serons en train d'attendre un gouvernement issu des élections. Alors ceci fait quoi? Fait que toutes ces forces essayent maintenant dans une concentration finale de retarder l'avènement de la démocratie dans le pays. Et ce qui manque le plus, et ce qui est dramatique, d'ailleurs je rejoins un peu tout à l'heure ce que mon confrère a dit, c'est qu'il manque au niveau de la classe politique une compréhension unanime de l'enjeu. Il y a un enjeu national qui dépasse qui a gagné les élections, qui les a perdues, qui dépasse qui est au pouvoir et qui n'est pas, qui dépasse qui rend les affaires courantes ou qui va faire les affaires sérieuses. Cet enjeu, c'est au niveau de la classe politique entière. Il faudra que nous ayons la même compréhension de l'enjeu. La crise qui frappe le Congo aujourd'hui ne frappe pas le Congo dans ses particularités, mais dans son ensemble. Alors, si le gouvernement, je crois qu'il y a un Premier ministre, même s'il n'a pas de gouvernement, hein, il peut aussi prendre la parole rien n'empêche le Premier ministre qui est déjà nommé de prendre parole.
Ce qui est vrai, on ne l'a pas encore entendu.
Voilà, rien n'empêche aussi de l'Assemblée nationale d'en faire une situation, une motion d'information, parce qu'il y a des élus. Là où à Minembwe, il y a des élus. Partout, il y a des affrontements aujourd'hui. Des élus sont à Kinshasa. Qu'est-ce qui les empêche de prendre ce problème et de le mettre sur la table de compréhension au niveau de l'Assemblée nationale? Moi, je me dis, effectivement, le retard dans la mise en place du gouvernement relève des appétits multiples et nous pouvons essayer de le comprendre, mais il existe quand même aussi l'état-major général de l'armée. Le président est encore en place. On fait comme si dans ce pays, il n'y avait pas de chef d'État. Le chef d'État est le garant de la nation. Et c'est à son niveau qu'il doit aussi prendre la mesure de la crise.
Oui. Henri Kébé, vous êtes en ligne de Mbandaka, rédacteur en chef de la RTNC. Sur le retard du gouvernement, vous pensez aussi qu'il y a un lien avec la situation qui se passe un peu au Bas-Congo et à l'est du pays?
Peut-être oui, mais il faut dire qu'il se constate qu'il y a un manque d'autorité au niveau de l'État. C'est comme il n'y a pas de leadership depuis un bon bout de temps. Le président a prêté serment, mais on constate comme s'il y a un vide là, comme l'État n'existait pas. C'est ce qui fait que d'un point à un autre, il y a ces résurgences des comportements de ce genre. Donc je crois qu'il faudrait qu'on mette en place un gouvernement le plus rapidement, parce qu'on sent l'absence de l'autorité de l'État jusque-là. Et chacun, là-haut, dans son coin, peut se prétendre de faire n'importe quoi, parce qu'il sent qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Donc je crois que c'est nécessaire qu'on mette en place ce gouvernement. C'est fort possible que ce qui est arrivé à Minembwe, des gens aussi qui sont là-bas, qui croient qu'il n'y a pas d'autorité de l'État, peut se permettre de narguer l'État comme cela. Je crois que c'est urgent qu'on mette quand même un gouvernement en place.
Voilà. Il nous reste encore, chacun peut avoir une minute là, mais là pour dire, Vonvon Kasongo de TKM, comment vous expliquez-vous le retard justement dans la sortie du gouvernement un mois après?
Je ne sais pas trop m'expliquer cela, mais je trouve que c'est un peu, c'est même pas un peu, je trouve que c'est irresponsable parce que vous-même, nous venons de citer des cas auxquels l'État congolais est confronté aujourd'hui, et que les hommes, parce qu'on entend dire que si le gouvernement traîne, c'est parce que certains ne sont pas satisfaits de postes qu'on leur octroie. Donc, quelque part, moi je dis, ils font preuve d'irresponsabilité alors que l'État congolais, c'est non.
Clément Daou, journaliste indépendant, votre avis sur le retard justement dans la sortie du gouvernement et moi après?
Il y a beaucoup d'appelés. Il y aura très peu d'élus. Je pense que le chef de l'État et le Premier ministre Gizenga doivent se surpasser. Ils ont 5 ans. Pendant les 5 ans, il y a toujours moyen de changer de joueur. D'autres peuvent se reposer et d'autres peuvent venir travailler pour continuer la course, pour continuer le match. Le match va durer 5 ans. Je pense qu'il sera inconcevable qu'ils doivent continuer à attendre parce que je sais que la coalition elle est fragile, elle peut à tout moment voler un éclat, parce qu'il y a de gauche à droite des formations politiques ou des plateformes qui ont apporté quelque chose pour que la coalition s'efface. Mais je pense que si tous, pour avoir été élus par la population congolaise, si tous ont à l'avant-plan l'intérêt supérieur de la nation, en tout cas les autres peuvent d'abord attendre que le premier commence et qu'on pourra les servir.
Oui, on termine avec Willy Kalinga, directeur des infos à la chaîne de télévision Antenne A. Est-ce que Willy, vous pensez que c'est des problèmes au sein des coalitions, notamment la coalition MP, qui retarde la sortie du gouvernement un mois après?
Mais c'est des problèmes parce que les gens qui sont en coalition, pour la plupart, n'ont jamais travaillé ensemble. La coalition s'est faite dans le feu de la campagne électorale. Et il y avait un objectif à atteindre et maintenant qu'on a atteint l'objectif, il faut mettre en place un rouage parce que, imaginez, gérer un pays, c'est le gérer minute par minute. Alors moi, je me dis simplement que mon espoir, et c'est peut-être un espoir, je ne voudrais pas qu'il soit déçu, mon espoir serait que le temps d'attente que nous avons plus de 45 jours après correspondent à l'émergence d'un leadership de qualité. Je pense que si le patriarche a pris 45 jours, c'est pour nous mettre en place des ministres compétents, des ministres capables de réagir aux enjeux actuels. Mais si c'est pour que l'on voie les mêmes têtes là, ça serait vraiment malheureux qu'on ait attendu 45 jours, on aurait pu le faire le même jour.
Voilà. Voilà. Oui, on va finalement terminer avec Henri Ekebe en ligne de Mbandaka. En une minute, Henri Ekebe, comment vous expliquez le retard dans la sortie du gouvernement Gizenga?
Oui, Kizenga est Premier ministre, selon les textes, c'est lui le chef du gouvernement. il est de la ANP, mais je crois que le président de la République également a une majorité. Je crois que l'ANP, à ce niveau du président de la République, pose problème, parce que lui a la majorité également au Parlement. Et c'est, il faut qu'il s'attende entre le président et les premiers ministres pour qu'on nous mette en place un gouvernement crédible qui doit répondre aux aspirations de la population.
Voilà, fin de cette tribune de la presse de ce vendredi 2 février 2007. Nous avons abordé trois thèmes. Les affrontements au Bas-Congo avec près d'une centaine de morts selon des sources indépendantes, la reprise de combat face à Ki en Ituri, à Minembwe au sud Kivu, et le retard dans la sortie du gouvernement Odizenga. Nous avons reçu dans cette tribune de la presse nos confrères journalistes Willy Kalengai, directeur des informations de la chaîne de télévision Antenna, Vonvon Kasongo, rédacteur en chef de RTKM, Henri Ekebe, rédacteur en chef de la RTNC Mbandaka, et Clément Nzao, journaliste indépendant. Des confrères à qui je dis merci parce que leur panel achève ce soir leur rotation de 4 semaines. Nous espérons bien sûr les retrouver une prochaine fois, mais la semaine prochaine nous recevrons un nouveau panel de confrères. Merci aux auditeurs de Radio Capi, merci à l'équipe de Dialogue entre Congolais, à l'équipe technique pour la réalisation de cette tribune de la presse. Cette émission sera rediffusée le matin en FM à 5h30, heure de Kinshasa, et de l'ouest du pays, une heure de plus à l'est de la RDC. Retrouvez aussi Tribune de la Presse sur votre site internet www.radiocapi.net et sur les ondes courtes 11 690 kHz. Bonsoir et bonne suite de programme sur Radio Capi.